Bonjour, les papous en piste jusqu'à 13h58 à l'affiche, dernière partie des papous entre deux ponts avec une correspondance entre Dédale, Achille et Tétis et une vie de vitre toute en transparence par Hervé Le Tellier et Val Massy.
La fenêtre, ça voudrait dire le soleil brille. La fenêtre, tire les rideaux, tu te déshabilles.
Ensuite, une histoire de souris et de chat par Jacques Vallée et Violaine Schwartz. Quand un papou lit un autre papou, la chronique de Gérard Mandilla. Une page de Publipapoucité, suivie du 8e épisode de La Madeleine de Jacques Jouet. Enfin, le DLA pour les experts Clément Almassy Delbourg et Fournier Lucas.
Il y a juste un élément de datation qu'on ne peut pas entendre à l'oreille, c'est la parenthèse.
Et ça vous mène à quoi?
C'est un petit clignotant particulier. Tout le monde ne met pas des parenthèses au milieu de son texte.
Oh.
Non, Victor Hugo ne mettait pas de parenthèses.
Ah,
je suis désolé.
Il y a d'autres auteurs que Hugo, Lucas.
Bon, Chateaubriand, alors.
Pardon. En tout cas, si c'est Hugo, c'est l'homme qui rit, c'est sûr.
Ah oui.
François Strossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à retrouver sur franceculture.fr pour le podcast. Et rejoignez-nous sur la page Facebook des papous pour les échanges entre amis. Merci de votre fidélité à nos jeux et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois. Et tout commence aujourd'hui avec la dernière partie des papous entre deux ponts. Notre émission enregistrée en public le 5 mai dernier où nous avons joué à faire et refaire les ponts réels ou virtuels. Reste deux jeux où se glisseront l'idée du pont avec Jacques Jouet, Lucas Fournier, Hervé Le Tellier et Val Massy. Nous retrouvons donc la scène du studio 105 de la Maison de la Radio avec les drôles d'épistoliers, trois personnages pour une correspondance. Le premier, imaginé ou choisi peut-être dans une galerie de célébrités par Jacques Jouet, écrit au deuxième, un rôle endossé par Lucas Fournier à propos du troisième, Hervé Le Tellier. Parce que pour une raison connue de lui seul, eh bien, il a besoin d'un intermédiaire pour son histoire. À vous l'honneur, Jacques Jouet, qui êtes-vous?
Je suis Dédale.
Dédale.
Le papa de d'Icare, vous savez.
Ah oui, Dédalus?
Oui, c'est ça. Oui. Et j'écris à Achille, le fils de Pélée et de Tétis.
Ah oui, oui, de Pélée, oui.
Vous avez une soucis culturel, hein.
Oui, bah oui, vous écoutez France Culture. Et alors, qu'est-ce que vous lui dites au petit Achille?
Je sous-signais Dédale, voici mon CV. Je suis architecte, concepteur, ingénieur, inventeur et technicien, tous hors pair. C'est moi qui ai résolu le problème de Pasiphaé qui voulait s'unir à un taureau en fabriquant une vache en métal et en chaleur dans laquelle je l'installais, et dans le bon sens. La suite est facile à imaginer. C'est moi qui ai dessiné les plans du labyrinthe pour y incarcérer le Minotaure, fils de Pasiphaé et de son taureau, afin qu'il ne puisse pas en sortir. C'est moi qui ai conseillé à Ariane de conseiller à Thésée de dérouler un fil pour retrouver son chemin dans le labyrinthe après qu'il eut assassiné ce pauvre Minotaure. C'est moi qui, enfermé dans mon labyrinthe avec mon fils, nous permis de sortir par les airs comme les hommes oiseaux pour le meilleur puis pour le pire. C'est moi, je pourrais faire ainsi une trop longue liste de « c'est moi ». Aujourd'hui, mon cher Achille, je ne sais pas ce qui me prend, mais comme j'ai quelque chose à dire à ta mère, Tétis, je préfère m'adresser à toi qui pourrait peut-être l'influencer sans en avoir l'air. Chacun sait qu'elle-même est totalement imperméable à toute pression. Il est dit dans la mythologie, c'est peut-être faux, ce n'est peut-être qu'une rumeur, ce n'est peut-être qu'un mythe, que ta maman a l'intention, pressentant chez toi une vocation de casse-cou, voire de guerrier tout fou, de te plonger dans les eaux du Styx afin de te rendre à jamais invulnérable à toutes sortes d'armes de jet, d'explosifs, chimiques ou de destruction massive. L'intention part d'un bon sentiment maternel, et le bon sentiment maternel part d'une tout aussi bonne intention. C'est une affaire entendue. Mais, Achille, essaie d'avoir l'esprit léger pour une fois autant que le pied. Ta mère, attention, peut se planter. La plante du pied, comme le talon, peut être fatale à un destin national et militaire. Si ta mère veut te plonger dans le Styx, il faut qu'elle te plonge tout entier, qu'elle te lâche la grappe et ne te tienne pas par le pied, ni par le gros orteil, et ni par le talon. Alors moi, j'ai la solution. Je te la dis à toi, car elle peut t'intéresser directement. Dis à Tétis que j'ai inventé récemment, 1. Le filet à crevettes. Le havenot. En fait, c'est mon ami Léonard qui m'a donné l'idée. 2. L'égouttoir à frites, c'est un peu la même chose. 3. Le carrelet, qui permet de baigner intégralement un sujet sans le noyer, si l'on remonte la chose à temps. Nul doute que dans le Styx, quelques secondes durant, tu feras grande merveille, et que pendant la guerre de Troie, ce n'est pas un pauvre Paris qui pourra t'en remontrer et t'arriver au talon. Parle-en à ta mère, Achille, discrètement, ton ami Dédale.
C'est un personnage, hein, formidable, Dédale. Donc, Lucas Fournier, vous êtes chargé de faire le pont entre Dédale et Tétis, la maman, votre maman, qui sera interprétée par Hervé Le Tellier. Alors, je m'adresse à vous, mais je sais bien que tout ça, ça s'est passé quand vous étiez très bébé, non ?
Oui, vous savez bien que c'est un tendron, Achille, et oui. Il est petit, quoi.
Mais il est très, très doué.
Il est doué et il a des choses importantes à dire à sa maman. Et dans ces cas-là, on a une pudeur, les garçons, on préfère écrire.
Voilà.
J'écris à maman. Tétis. Maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Comme disait Oedipe, nous autres les Grecs, on aime nos mères. Et tu vois, maman, quand on me demande, Achille, entre ta mère et la justice, qui aimes-tu le mieux ? Eh ben, maman, je te le dis, c'est toi que je choisis. Oui, oui, toujours. C'est d'ailleurs ce que je viens de répondre à Ulysse, un copain, très bien fait de sa personne, sportif, haute valeur morale. Il me proposait de partir en vacances à Troie avec mon cousin Patrocle. Alors Patrocle, c'est mon cousin germain, mais pas que. Il est grec aussi. Patrocle, très bien fait de sa personne, sportif, mais haute valeur morale, lui aussi. Hein. Je leur ai dit, non, je n'y vais pas. J'ai promis à ma maman de l'accompagner et prendre les eaux dans le Styx. Tant pis pour vous, les garçons. En même temps, maman, je vais bien, je ne tousse plus, et je n'ai rien à faire dans ce sanatorium plein de soufre avec des eaux aquatiques. Mais j'irai quand même dans ton Styx. C'est ce que j'ai dit à Ulysse et Patrocle. Je vais avec ma mère prendre mon pied dans le Styx, enfin, ou l'inverse, c'est elle qui prendra mon pied. Je sens, maman, que ce tête-à-tête va nous faire du bien à tous les deux. Ah, c'est super important, maman, de pouvoir se ressourcer dans un fleuve et de se retrouver après toutes les semaines pénibles que la mythologie nous a infligées. Alors, je ne connais pas bien la région du Styx, sauf pour le Scrabble, où ça vaut 26 points. Et je me disais qu'il serait sympathique de la découvrir avec un guide chevronné. Et il se trouve, maman, que j'ai une relation très intéressante. C'est un architecte, très bien fait de sa personne, sportif, mais haute valeur morale, ingénieux mais modeste. Il se propose de nous équiper pour affronter les eaux tumultueuses du Styx, avec, je cite, un havenot pour pêcher des moules, un égouttoir à frites et un carrelet. Bref, grâce à lui, nous aurions de quoi déguster des moules frites et des fish and chips. Si on a la dalle, on aura des dalles, car des dalles, c'est son nom. Alors, il connaît bien le coin et se propose de se baigner, dans le plus simple appareil, avec nous. Dis-moi si tu es d'accord, ce Dédale est un garçon sensationnel, il te plaira beaucoup. Il aurait très bien pu être mon cousin, comme Patrocle. Allez, maman, dis-moi oui, ton grand garçon qui t'aime.
Oh, c'est mignon. Les relations fils-mère sont toujours très affectueuses. Alors, donc, Tétis, maman Tétis, Hervé Le Tellier... Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Vous répondez à Achille ou vous écrivez à Dédale ?
J'écris directement à Dédale parce que, bon, je reçois souvent des lettres de mon fils auxquelles je ne réponds pas. Je trouve qu'il a un comportement avec moi un peu grec. Donc, je préfère le tenir un peu à distance. Ça peut entraîner des confusions. Donc, cher monsieur Dédale, j'ai reçu ce matin une lettre de mon fils, très confuse, comme en son habitude. Il me propose de m'équiper d'un égouttoir à frites et d'un filet à moules. Bon. Alors, je veux bien croire que Dédalex libère la femme, mais voyez-vous, à la maison, nous sommes régime crétois. Légumes, huile d'olive, vin rouge, oignons. Alors, vos ustensiles qui viennent du Nord me semblent bien inutiles, surtout que, comme dit le proverbe grec, il n'y a pas de moule dans le Styx et vice-versa. Proverbe dont le sens m'a d'ailleurs de toute façon toujours échappé. Mon fils me signale également que vous jouez ensemble au Scrabble. Mais je constate avec tristesse que vous trichez, puisque Styx est un nom propre et qu'il fait 22 points, non 26. Alors, pour une personne de haute valeur morale, vous repasserez. Et je suis certaine que vous abusez de sa crédulité, de mon petit garçon Achille, qui est un myrmidon. 12 points au Scrabble. 21, si on arrive à faire croire qu'il y a un Y. Toutes ces remarques me mènent hélas à la conclusion suivante. remercie.
Non.
Nous ne saurions nous baigner dans le Styx ensemble. Je ne vous salue pas. Tétis. PS. Mon fils me parle d'un cousin que je ne connais pas et qui serait à la fois grec et germain. Ce n'est pas trop clair, cette affaire non plus.
Oh, pas trop clair. Ah ben oui.
Pas clair.
Les papous dans la tête, les papous entre deux pour en public au studio 105. Autre chose, c'est un objet qui se raconte. Et c'est un objet qui a sa fragilité, sa force. Et c'est un objet qui a été choisi par Eva Almassi. Alors c'est quoi ?
Bah, un des mots-clés, c'est fragilité. Ouais. Je suis la vitre.
Ah oui ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la vitre ?
Au secours, elle dit. Ouais. Au secours, je ne me vois pas. Personne ne me voit. Pourtant, je sais que je suis là et je sens que je suis nue, toute nue. On ne peut plus nue. Où sont mes jambes ? Où sont mes bras, mon estomac et mes fesses ? Tu les aimes, mes fesses ? Sauf que je n'en ai pas. Je crois que je n'en ai jamais eu. Je suis mince, si mince qu'on voit à travers mon corps. Je suis transparente, je suis invisible. Viens, viens, approche ta bouche. Maintenant, tout doucement, souffle. Un petit haut de buée apparaît. Ça, c'est toi. Et la chose, ce clair objet du désir qui te révèle à toi-même, ça, c'est moi. Le pont des soupirs, mais non, je suis, je l'ai dit, la vitre. La fenêtre, ça voudrait dire tout est joli. La fenêtre, notre monde a du génie. D'une droiture, que dis-je, d'une verticalité sans faille. J'ai une très haute opinion de moi, vois-tu, on habite toi et moi au quatrième étage. Plus haut, tour, gratte-ciel, ce serait d'une prétention. De l'orgueil mal placé. Là où je vis, je me sens bien, le vitrier. Que son nom soit loué et sa peine récompensée, m'a hissé à l'aide de cordes et de poulies. On aurait dit un pont-levis.
Ah.
La fenêtre, ça voudrait dire au fil des ans, la fenêtre, je laisse passer l'air du temps. Toi, homme, tu étais poussière et tu retourneras en poussière. Moi, j'étais du sable. Si je n'existais pas, il faudrait m'inventer. Et c'est ce qui s'est passé. Et la lumière entra dans les demeures, les palais et les masures ne furent plus le jour que pur azur et or, du moins en été. La fenêtre, ça voudrait dire le soleil brille. La fenêtre, tire les rideaux, tu te déshabilles. Je suis indiscrète, sans pudeur, je montre tout. Je suis sensible, fragile, de grâce, ne laisse pas la nature prendre le dessus et m'infliger ces outrages. Les chiures de mouches, voire de pigeons, ne sont pas les bienvenus. Pff, ça pue, rien n'est plus moche, c'est sale, tes mots obscurcissent la vue, éternissent l'éclat sans pareil de ma peau de verre. Eh oh, qu'est-ce que tu crois qu'il va pleuvoir aussi à l'intérieur? Que je serai lavée de tout soupçon comme ma cousine d'Hollywood, fenêtre sur cour de Monsieur Hitchcock. Ne me dis pas que t'as le vertige. La fenêtre, ça voudrait dire le ménage. Presse la fenêtre, c'est plus urgent que le reste. Retrousse tes manches, approche l'escabeau, sors ton artillerie lourde. Si tu veux mon avis, j'aime par-dessus tout la caresse d'une peau chamoisée. J'ai horreur des pchit-pchit chimiques. L'an dernier, tu m'as passé la vapeur. Parfois, tu me frottes avec du papier journal froissé. Ça nous rend proches. Je connais tes abonnements, ta couleur politique. La fenêtre, ça voudrait dire regarde, regarde. La fenêtre, les nuages arrivent, bonjour l'orage. L'hiver, le gif fait fleurir sur mon petit jardin. Dans mes coins. Sinon, j'ai une sœur jumelle qui me colle, nous sommes double vitrage. J'adore qu'on me laisse entrebâiller, ouverte à l'espagnolette. Je laisse passer, bruyer, courant d'air, ça me traverse. Pourvu que ça ne soit pas un ballon de football. Oh, ça me briserait le cœur. À propos, les pare-brises des voitures sont des parents éloignés. Plus proches, mes petites nièces, ce sont tes lunettes. Elle, d'accord, oui, celle-là, ça veut lire. Capacité qui me fait défaut. La télé, je regarde un peu, les autres écrans bouffent. Si l'œil est la fenêtre de l'âme, alors la fenêtre est quoi? Je vais encore réfléchir longtemps à la question. La fenêtre, ça voudrait dire bien des mystères. La fenêtre, pure merveille entre ciel et terre. Et je suis modeste.
C'est un très très joli texte que j'ai osé vous confier, Hervé Le Tellier.
Oui.
Je ne sais pas si j'ai bien fait. Qu'est-ce
si,
que
si,
vous en pensez
fait.
Vous avez un point de vue
oui.
sur la fenêtre.
Je suis vitrier à Vitry.
Oui.
J'ai mis les vitres chez Madame Lassy. C'est un beau doux le vitrage qui fait barrage contre le froid, contre le bruit. Et en plus, c'est tellement joli. Moi, je pose des carreaux, des petits carreaux, des carreaux pour avoir bien chaud. C'est un métier classe, jamais je ne me lasse. Des carreaux pour avoir bien chaud, avoir bien chaud, avoir bien chaud, avoir bien chaud. Ah, Freddy Hitchcock, je l'ai fourni. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Fallait qu'on voie la voisine, qu'on assassine. Alors j'ai mis du transparent, sinon c'était très embêtant. Moi je pose des carreaux en détail en gros, des carreaux et même des vitraux. Mais en cathédrale, ça devient vite sale. Préférez les carreaux, c'est pratique et beau. Préférez les carreaux, c'est pratique et beau. J'en pose aussi à Paris. Je vous le signale si vous aviez des amis. Je fais du simple vitrage, genre moyen âge. Mais là, faut tout de même pas rêver, on risque vraiment de se dégeler. Demandez mes carreaux, ce sont les plus beaux. De Paris à Bordeaux, je les pose à gogo. Et même je me déplace pour poser des glaces. Demandez des carreaux pour avoir bien chaud, avoir bien chaud, avoir bien chaud, avoir bien chaud.
C'était les Papous entre deux ponts et déjà se profile notre dernier enregistrement public de la saison. Ce sera le vendredi 16 juin à 20h, toujours au studio 105 de la Maison de la Radio où nous avons élu domicile pour ces rendez-vous avec vous. Depuis le mois de septembre, le 16 juin, nous jouerons avec un thème de saison. On se marie beaucoup au mois de juin. Thème ô combien délicieux, important. Le mariage. Mariage et autres fusions d'entreprises ou jumelages. Avec moi une belle équipe, Serge Oncourt, Patrice Delbourg, Jeanne Carillon, Lucas Fournier, Patrice Minet, Eva Almassi, Jacques Jouet, Jacques Vallée, Odile Conseil, Hervé Le Tellier, Jean-Bernard Pouy et fidèle au piano pour accompagner nos jeux en musique, Gabriel Godard. Alors c'est noté, vendredi 16 juin, le mariage des Papous dans la tête à 20h. Réservation indispensable sur le site maisondelaradio.fr, Maison de la Radio, tout attaché. Et parenthèse, soyez sympa, réservez si vous êtes certain de venir, parce qu'on ne peut pas annuler sur ce site. Renseignements à retrouver à la page des Papous du jour et sur notre page Facebook. Les Papous du jour, on continue. On n'aime pas, on est indifférent, soit, c'est humain. Mais il arrive que l'on déteste quelqu'un, c'est humain aussi, au point de lui écrire pour le lui dire. Et c'est l'objet de l'exercice de détestation que j'ai proposé à Jacques Vallée et Violaine Schwartz. Alors d'abord, entre nous, une question. Jacques Vallée, ça vous arrive vraiment de détester des gens?
Oui, ça m'arrive, mais de moins en moins. Je suis de plus en plus cool.
C'est vrai. Pacifique.
Pacifique, voilà. Mais je peux en moi trouver des ressources pour injurier.
Ah,
ça peut arriver.
D'accord. Et alors là, c'est vous qui écrivez à la personne haïe?
C'est ou... une lettre d'injure particulière. C'est une souris qui écrit un chat.
Oh ben moi, je trouve qu'elle a des raisons. C'est Tom et Jerry,
bah oui.
C'est ça.
Et lorsque deux animaux s'écrivent, oui. Très souvent, c'est sous forme de fable.
Eh ben oui, c'est
parce que
vrai.
Ça, c'est la tradition depuis tellement de temps. Donc, oui. C'est une fable d'engueulade.
D'accord, déjà que c'est extrêmement étonnant qu'ils s'écrivent, hein, quand même.
Oui, mais s'ils s'écrivent. Et puis, je voudrais le dédier, si c'était possible, à la mémoire du dessinateur Ciné. Parce que Ciné était le premier à faire des dessins de chats,
oui.
Avec de l'humour sur les titres et tout ça, oui. Se servant du mot chat, et c'est un peu le principe que j'ai fait.
Eh bien, très bien, on le lui dédie.
La souris et le chat. Une vieille souris ayant de l'expérience écrivit à un chat qui manquait de clémence. Chalut, chalot. Oui, c'est une souris, elle est peut-être auvergnate, mais une chointe quand elle est très émue. Ah ben ça oui. Lui arrive de temps en temps.
Hein, ah oui, c'est un charmant défaut de prononciation. Oui.
Chalut, chalot. Chalut. Quand elle donne ainsi libre cours à son ire, des chointements parfois accompagnent ses dires. Charançon, pourquoi nous tourmentes-tu? Pourquoi toujours vouloir nous décimer? Charogne. Tu nous chasses ainsi, nuit et jour, sans vergogne. Tu es d'un esprit scélérat. Chacan, chalet, chabat, tu as pris mon époux et toute ma famille. Chasseur, chapardeur, que la souffrance émoustille. Tu as beau faire la chatemite, chafouin. Tu n'es qu'un fiefé, chagouin. Et ne pense pas que désormais je te craigne, chaloupé, chalope, châtaigne. Tu nous as causé tant de maux que je tiens à ma vengeance, chameau. Je vais te harceler sur les réseaux sociaux. Pour t'injurier et te maudire, pas besoin d'inventer des faits alternatifs. Pour montrer ta cruauté, chat audif. Pour peindre ta vraie nature, chatire. Plus jamais on ne te verra doux, bénin, gracieux, mais tel que tu es, malfaisant, chassieux. J'ajouterai charlatan à plus d'un titre. Un dernier chapitre, et comme en fin de fable, il y a la leçon, en parlant de toi, on dira « chalecon
». Oh, que c'est bien dit tout ça. Elle a une sacrée plume, la souris. Hein. Puis je trouve que « châtaigne », c'est une insulte délicieuse. « Châtaigne », waouh.
Le petit charogne, j'ai bien aimé.
Ah oui, 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 très très joli. Bravo. Bah, on espère que le chat qui va répondre a autant de style hein, que la souris. Non, d'ailleurs, je suis certaine qu'il en aura autant parce que c'est vous, Violaine Schwartz, qui allez répondre. Mais vous êtes un chat ou vous êtes une chatte?
Ben, je suis une chatte.
Oui.
Voilà. D'accord. Une chatte qui chante. Hein, qui, voilà. Donc, qui, c'est tout la... d'un coup, pousse une chansonnette.
C'est la bataille de la chatte contre la souris.
Voilà.
Alors, on écoute le chat.
N'étant féru de verre, je préfère les souris. Je vous réponds, ma chère, sous forme de chansonnette, sur le bel air de la vie en rose, la voici. Quand je trouve un sourisseau, un joli musardeau, jamais je ne me repose. Je le balance par la queue, un coup de griffe au milieu, c'est une vraie névrose. J'en avale mes moustaches, j'adore ce jeu qui tache, du sang partout bien rose. Je le déshabille une patte là, l'autre ailleurs, je le mets en quatre morceaux, quel bonheur. Quand je vois une vieille souris, comme vous l'êtes ma chérie, je ne m'offre aucune pose. Je vous dépoile dans les coins, oui, je n'en aime pas moins votre goût de glucose. Vous pouvez me supplier, râler, prier, couiner, à moi nul ne s'oppose. Je vous adore, vous désore mon trésor. Et puis j'en ai assez de jouer avec vous, comme de trouver de belles rimes pour faire une jolie chanson à l'auteur de votre fable. J'avoue, je ne suis peut-être pas aussi douée que vous pour les vers, et je suis sans doute moins affable, mais c'est moi la plus forte, c'est moi qui décide. Donc, je vais faire un petit somme maintenant, papa t'en rond. Je suis épuisée par tout ça, je vous terminerai plus tard.
C'est bien.
Qu'est-ce qu'elle en pense, la souris, quand mais elle reçoit
il,
ça?
Il est charmant, je ne serais pas souris, peut-être que je me laisserais séduire. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me.
Randy Newman, you've got a friend in me.
Kellemes vasárnapot a papukkal a fejben!
Et oui, elle l'a dit en hongrois, mais ça veut dire, vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Quand un papou lit un autre papou, la plupart des membres de notre bande de papous écrivent des romans, des essais, et à chaque nouvelle parution, séance de dédicace entre papous dans notre petit studio, cours de récré et ensuite lecture. C'est agréable et enrichissant de lire ce qu'écrivent les camarades de jeu. Alors, comme certains d'entre nous, Gérard Mordillat a lu le livre de Jacques Jouet, tout chaud sorti chez POL, une sorte d'exercice de style, le bourgeois versifié. Alors Gérard, raconte.
Molière l'avait prévu, Molière l'avait prédit, Jacques Jouet fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Eh bien, c'est fait. Jacques Jouet nous montre que le beau vers français, roulé comme du boudin, selon Verlaine, n'a plus de secret pour lui. Frégoli de la littérature ou tailleur du sentier, Jacques Jouet vous retourne le bourgeois gentilhomme comme un gant et le sort du chapeau cousu main au point de fantaisie. Il restitue le texte original que Molière écrivit en alexandrin avant de le servir en prose à Versailles pour distraire le roi que le vers de 12 pieds indisposait et qui le pressait d'en finir. Voilà donc le bourgeois versifié au plus près de Molière, comme le dit un sous-titre sur la couverture de l'ouvrage. Chacun se souvient, ou devrait se souvenir, que M. Jourdain découvre avec ravissement qu'il parle en prose. Ce qui donne en vers, quoi ? Quand je dis « Nicole, apportez mes pantoufles et mon bonnet de ski, mes après-ski, mes moufles », c'est toujours de la prose ? Le maître de philosophie ne peut que répondre « Eh oui, monsieur !» Et nous ne pouvons qu'applaudir au talent de l'auteur faisant rimer à la perfection « pantoufle » avec « moufle », s'offrant même le luxe d'une rime interne entre « ski » et « après-ski ». Comme le remarquait Jean Racine en villégiature à Saint-Moritz, ça ne manque pas de souffle. Et il avait bien raison. Le vers jouessien est jouissif, il rend jouasse, et on a envie de tout citer. Ainsi, Coviel, parlant de Lucille, la fille de M. Jourdain. « Elle, monsieur, tiens donc, la belle mijaurée, bien bâtie, c'est d'accord, néanmoins, pimpesouée. » Cette pimpesouée, délicate et précieuse, est la cerise sur le vert, la perle de culture, la fleur de poétique dans le bouquet de la fiancée. Plus loin, Cléonte, face à sa belle, n'est pas en reste. Et n'imaginez point connaître triomphe, aussi vrai qu'il me manque une autre rime en onf. Un manque de rime, qui est ici un manque d'amour. Ah! Qu'en termes galants, ces choses-là ne sont pas dites, mais induites par le vers lui-même, porteur de dépit amoureux. Ce onf qui manque, c'est un cœur qui se brise. Pour la bonne bouche, citons encore ce vers. Tentez l'expérience, l'utilité paraît en toutes circonstances. 6 pieds de U, qui dit mieux ? La récolte est abondante et le cru du meilleur tonneau. Mais à ce jeu, on se laisse vite emporter. Comme Nicole, morte de rire, en 12 pieds de i. Et il en va de même pour la musique, le chant, les armes et tutti quanti, y compris la philosophie. Et comme Cléonte, on ne peut que reconnaître, sa qualité le sert, il en met plein la vue. Ce « il » est un peu maigre pour célébrer Jacques Jouet, dont la générosité langagière nous repaît d'un véritable festin de mots, dont la prodigalité de rimes enchante nos oreilles, dont l'inventivité formelle abreuve l'intrigue pour que jamais nous ne demeurions sur notre soif. C'est du beau boulot, comme disait Faulkner, et du grand art, comme disait Wolfgang Amadeus Mozart, deux contemporains du Jacques Jouet éternel. Alors, bien sûr, le bruit a couru et certains même font encore semblant d'y croire. Les pièces de Molière seraient l'œuvre de Pierre Corneille. Mais qui peut croire une chose pareille ? Après avoir lu le bourgeois versifié, la vérité et l'histoire triomphent à donf, puisqu'il faut offrir à l'auteur une rime en onf, et chacun saura désormais que les œuvres d'un certain Jean-Baptiste Poquelin dit Molière sont en réalité une entreprise de plagiat par anticipation du seul et véritable auteur de cet exceptionnel corpus, l'incomparable Jacques Jouet. Qu'on se le dise, qu'on le lise.
Harukana mukashini sarishin tono guta kyō mo machi ni nagaru omokage shiradze ni utawareru uta yo kyō mo machi ni nagaru kokoro mo kotoba mo itsu no mani ni kawari tada la 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 la.
Charles Trenet, bien sûr, sa version japonaise de L'âme des poètes. Ce qui va suivre est une pub culturelle et décalée, ou publie papoucité, proposée par Patrice Caumont, qui a soigneusement affûté des répliques pour Dominique Muller et Hervé Le Tellier. Piano et chant, Gabriel Godard. C'est parti.
On a tous quelques pros en nous de Yourcenar. Toutes ces feuilles que Marguerite nous narre. Elle qui mâche ses mots comme des carambars. Qui travaille dur son œuvre mais au noir. Quelques doses de Yourcenar. Grand nègre d'Adrien pour ses mémoires. Sous la langue, c'est le divin nectar qui vous emporte l'âme au lupanard. Quelle glucose en nous, la Yourcenar. Mais y a pas que Yourcenar. En Marguerite dont ses feuilles les grimoires, y a du racé Marguerite de Navarre qui règle avec nous leurs petites histoires. C'est autre chose Yourcenar, loin de celle de la dame aux camélias. Cette Marguerite de fausse est l'avatar. Proprement et sans buvard, c'est comme du Claudel mais en moins bavard. Que brille la grande ours noire.
Vous aimez le grec ancien, chaque matin vous lisez du latin. Alors, dès le petit déjeuner, dégustez un yaourt sanar, le yaourt des Césars.
Suétone vous étonne, Horace vous délace, Tacite vous excite et Properse vous transperce. Alors, dégustez le yaourt sanar. Le yaourt nature qui n'a pas peur de vide.
Léger comme Tibulle, grâce à son napulé demi-écrémé, riche en calcium et en latium, contenant moins de lipides que ripides.
C'est la crème du style, l'inimitable goût de la langue, juste en saluste, c'est nectar de Sénèque, juvénile comme juvénal, yaourt senard, nature ou aux fruits, c'est du tite-live en live.
Collectionnez sur chaque boîte de 6 les vignettes qui narrent les aventures d'Adrien, le petit ours noir, la mascotte de nos yaourts, le yaourt sonar, reconnaissable à sa Marguerite, sur son pot en habit vert.
Quelques doses de yourcenar, ça vous rafraîchit vraiment la mémoire. Sous la langue, c'est le divin nectar. C'est plus du yaourt bio, c'est du Mozart. Quel lactose en nous, le yaourt senar.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h58, Madeleine, pourquoi tu déménages? Et le DLA au diagnostic littéraire à l'aveugle avec les experts Patrice Delbourg, Eva Almassi, Jérôme Clément et Lucas Fournier. Donc, Madeleine, pourquoi tu déménages de ville en ville et parfois à l'étranger? Petite escapade au Japon. Madeleine entraîne dans ses envies de vivre ailleurs son Charles de Marie, grand fan de Baudelaire, parce que, oui, il s'agit de s'installer, de travailler dans une autre ville. De nos jours, avec un ordinateur, tout est possible, et non pas de faire du tourisme. Dans le 7e épisode, Madeleine et Charles étaient de retour à Paris, mais pas pour longtemps. Jacques Jouet, 8e épisode de votre feuilleton.
Madeleine, mais pourquoi tu déménages? Et pour aller où? T'es pas bien là où tu es?
Non.
Peut-être êtes-vous de ceux, peut-être êtes-vous de celles qui vous imaginez que puisque vous n'avez pas de nouvelles de Madeleine depuis trop de dimanches, Madeleine s'est arrêtée d'être instable. Quelle naïveté! Non. Des raisons indépendantes de notre volonté ont suspendu le temps du feuilleton, c'est vrai, mais elles n'ont pas arrêté le temps tout court. Je ne sais même pas s'il n'a pas plutôt accéléré le temps réel, celui de Madeleine et de Charles. Jugez plutôt. Madeleine et Charles ont voulu voir Vesoul et ils ont vu Vesoul, mais en coup de vent. C'est le cas de le dire, car le jour de leur arrivée, ils ont essuyé une tempête mémorable qui a arraché le toit de la maison où ils espéraient emménager. Ils sont restés une nuit à ne pas dormir dans le camion de déménagement, les déménageurs bretons, qui n'ont pas eu la possibilité de décharger, repartis dès l'aube. Je n'ai pas le temps de vous donner de plus amples détails. Roulez jeunesse. Charles et Madeleine ont préféré se fixer à Ambérieu en Bugey. Et ils s'y sont fixés, pas longtemps. La canicule ayant complètement asséché la nappe phréatique et la distribution d'eau des nouveaux habitants n'était plus honorée. Madeleine et Charles ont habité Étampes, Pirou, Saint-Exupéry-des-Roches, Romans, Viry-Châtillon. J'en aurais des choses à raconter si on m'en donnait le temps. Madeleine et Charles, déçus de leur pays natal et frappés d'un accès de misanthropie, se sont retrouvés sur l'atoll français de Clipperton, au large du Mexique, dans le Pacifique, pas un seul habitant, sauf les fous de Bassan, mais, toujours cette satanée conjonction, on veut une île déserte, mais l'île n'est pas déserte, puisque justement, on y habite. Ah. Et ils ont failli s'entretuer. Alors ils sont rentrés en métropole, la queue basse. Où irons-nous? Dit Madeleine. Choisissons bien, moi je ne bouge plus. Si tu ne bouges plus, dit Charles, je ne bouge plus non plus. Serment d'ivrogne. Où allons-nous? Dit Madeleine. D'où venons-nous? Dit Charles. Je n'ai plus d'idée, dit Madeleine. J'ai une idée, dit Charles. Ah! Nous allons à Bourges, dit Charles.
Non.
À Bourges? Mais pourquoi Bourges? Une vieille capitale, dit Charles. Dans les plis sinueux des vieilles capitales. C'est Baudelaire qui l'a dit. Bourges a été la capitale du royaume de France au temps de Charles VII, et Louis XI y est né. Et puis c'est dans le Berry. Berry, chon, 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 vos cochons, chon, chon, ressemblent à des polochons, Charles. Berry, chon, 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 vos bouchons, chon, chon, ressemblent à des cornichons, Charles. Berry, chon, 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 vos nichons, chon, chon, ressemblent à des tire-bouchons, Charles. Et je trouve que le niveau de ta poésie régresse depuis quelque temps. Trouve d'autres arguments. Bourges, Madeleine. Bourges, la rue moyenne. La grande rue qui s'appelle la rue moyenne. Fallait le trouver. Oui, je sais, c'est la rue du milieu, la rue médiane, la rue moyenne. Mais c'est aussi le nom de rue qui rime avec Madeleine. Et Saint-Étienne, la cathédrale Saint-Étienne, qui rime elle aussi avec Madeleine. Qu'est-ce que tu veux trouver de mieux pour notre dernière demeure? Dernière demeure, tu veux nous enterrer? C'est toi qui as dit « je ne bouge plus, Madeleine ». C'était une façon de parler, seulement une façon de parler. Tu me fais peur, Charles. À Bourges, s'échauffe Charles, qui s'est drôlement documenté. Il y a ce petit Saint-Étienne sur le deuxième portail en façade de la cathédrale qui en compte cinq. Le petit Saint-Étienne porte la cathédrale dans ses bras, en modèle réduit. Saint-Étienne porte sa maison dans ses bras, exactement comme un escargot. Et puis, il est coiffé d'une pierre posée sur sa tête. C'est la pierre de son martyr, de sa lapidation. Et puis à Bourges, il y a les marais, les mille univers, Basse-Coulard, l'inconnu chinois, la première maison de la culture Malraux, les usines d'armement. Il faut que nous allions voir ça, Madeleine, et pas en touriste, en berruyer, authentique. Berruyer. Les habitants de Bourges ne sont pas des bourgeois. Les bourgeois, ce sont les habitants de Calais. Fais un peu d'effort, Madeleine, il faut tout expliquer. D'accord, dit Madeleine. De toute façon, il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Alors ils y vont. Ils logent dans la rue moyenne, juste au-dessus de la célèbre maison de la Forestine, qui vend les célèbres Forestines de Bourges, ces célèbres petits bonbons luisants comme des scarabées. Et ils emménagent en chantant. C'est le printemps à Bourges. C'est le printemps de Bourges. Les récréations de Bourges, les déménageurs sifflotent. Madeleine et Charles sont les meilleurs clients des déménageurs bretons. Grâce à eux, les déménageurs bretons, écoutez-moi bien, créent des emplois. Malheureusement, pas plus tard que le lendemain, le grand incendie se déclare. Le grand incendie de Bourges, semblable à celui de 1487, un demi-millénaire plus tôt, le feu a pris dans une friteuse inconnue sous les célèbres Forestines. C'est affreux. Madeleine est soulevée dans les bras musclés d'un pompier. Les cheveux de Madeleine sentent fort la fumée. La peau de Charles a goût de jambon fumé. Les rêves berruyés sont partis en fumée. Les rêveurs sont en fuite. Et ensuite ? Eh bien ensuite, c'est la suite. C'est à suivre, Madeleine. À suivre, Charles. Fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres. À suivre !
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois, je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Voilà, c'est la version de Catherine Francis et ses peintres de Capri, c'est fini. Très présent dans ce numéro des Papous dans la tête, Jacques Jouet en profite pour nous tendre un piège. C'est l'heure du DLA sur France Culture, le diagnostic littéraire à l'aveugle. Et Jacques, eh bien, a la mine réjouie de l'homme sûr de lui, convaincu qu'on ne trouvera jamais qui est l'auteur du morceau de littérature qu'il a choisi dans sa bibliothèque et pour notre jeu. On verra, Jacques, on verra. Vous avez face à vous des experts de championnat. Eva Almassy, Jérôme Clément, Lucas Fournier et Patrice Delbourg, tous quatre fins limiers. Alors, ils se trompent, certes, et même souvent, mais pas toujours. Et il y a entre ce souvent et ce pas toujours l'espace d'une possible victoire. Leur mission, trouver le nom de l'auteur de l'extrait de littérature que vous allez nous lire et le trouver avec des arguments pas au petit bonheur la chance. Jacques Jouet, on vous écoute.
Infortunée mémoire qui nous oblige à savoir quel chemin nous avons suivi pour devenir ce que nous sommes. À demi endormi, je m'imaginais même que mon corps n'était pas tout à fait homogène et que certaines parties n'en étaient pas encore mûres, ma tête riant et se gaussant de ma cuisse raillant ma tête, mon doigt plaisantant mon cœur et mon cœur ma cervelle, tandis que mon œil riait au nez de mon nez et que mon nez bafouait mon œil avec d'affolants éclats de rire d'un fou rire éclatant, membres et parties de mon corps se violentaient sauvagement dans une atmosphère de persiflage universel mordant et meurtrissant. Mais quand je recouvrais complètement mes esprits et que je commençais à me pencher sur ma vie, ma frayeur, loin de se dissiper, s'accrut. Quoiqu'un petit rire impossible à contenir vint toutefois de temps à autre l'interrompre ou peut-être la stimuler. À mi-chemin de ma vie, je me trouvais dans une forêt obscure et le pire est que c'était une forêt verte.
C'est un joli texte. Je ne sais pas pourquoi il dit le pire, c'est que c'était une forêt verte, oui, parce que le vert peut très bien s'accompagner d'obscurité, non, Jérôme ?
La chute est étonnante, parce que le texte est très travaillé, très écrit, très littéraire. Il y a beaucoup d'adjectifs, c'est frappant. Et puis la fin, évidemment, la forêt verte, on ne sait pas très bien ce que ça vient faire là, mais en même temps, c'est une jolie chute qui intrigue.
Oui.
Donc le texte remplit son office intrigant.
Voilà, et on a envie de connaître la suite.
On a envie de connaître la suite.
Une première impression, Patrice Delbourg.
Ça commence comme un texte raisonneur, pondéré, et puis ensuite ça devient névralgique. Il y a cet échange d'organes comme ça, ces viscères qui s'apostrophent. Moi, en tant que vieil hypochondriaque, ça me plaît beaucoup, ce moment-là, bien entendu. Non, c'est un texte très travaillé,
très ciselé.
Mais c'est
pas vous qui l'avez écrit, rassurez-nous.
Non, je parle jamais de ma cervelle.
Eva, est-ce qu'il y a déjà des éléments pour dire que c'est un texte écrit directement en français ?
Oui, il y a des éléments parce qu'il y a beaucoup de rire dedans, mais après, il y a énormément de synonymes. Et ils sont un petit peu recherchés, qui pourrait nous faire pencher pour une traduction, mais ce serait vraiment le seul indice. Se gausser, bafouer, persiflage, tout ça, c'est un peu recherché. Voilà. Mais ce qui est plus étrange, c'est que c'est quasiment une pathologie, un état pathologique qui parle. C'est là, d'abord, il y a un corps morcelé, un schéma du corps fortement dérangé. Alors, on se demande si c'est pas quelqu'un de perdu et de blessé dans cette forêt verte et pendant son sommeil, qui n'est pas un sommeil de bel au bois dormant, mais un monsieur perdu, peut-être un combattant qui, en se réveillant, est toujours là dans la jungle.
D'accord.
Alors que pendant son sommeil, il aurait pu se transporter ailleurs.
D'accord. Vous pourriez nous résumer la situation, Lucas ? Ce serait un combattant pour Eva ?
C'est une bonne question, parce que
Il
y a un narrateur dont on peut penser que c'est un être humain, même si à la première lecture, ce n'est pas évident. Il est dans la forêt, il a une cuisse, une tête. Et puis alors, comme il a un nez, un œil et des doigts, déjà ça limite le périmètre. C'est un mammifère, en tout cas. Et comme il a de la mémoire, qu'il a une capacité à rire, ça réduit aussi le nombre des mammifères. Donc c'est probablement un être humain. Mais après, quel est l'état de cet être humain ? On pourrait presque penser au début de l'histoire, où la cuisse est contre la tête, discute avec la cervelle et l'œil, qu'il est recroquevillé sur lui-même. On se demande même s'il n'est pas dans le ventre de sa mère ou quelque chose comme ça.
Comme un singe, voilà. C'est un peu la position du singe.
Alors un singe lové, un fœtus aussi, mais alors il se trouve dans une forêt obscure. Donc c'est quelqu'un qui est dans une certaine position, au milieu d'une forêt, à mi-chemin de ma vie. Qui peut dire ici qu'il est à mi-chemin de sa vie ?
Oh ben, on ne connaît pas l'échéance, non ?
Voilà, nul ne connaît l'histoire de la prochaine aurore. Donc
À mi-chemin, il se souvient, dit-il au début, de tous les chemins qui l'ont conduit là. Donc ce qui est étrange, c'est d'abord il y a une mémoire du chemin et des chemins parcourus, et ensuite il y a ce corps qui est comme un dessin de Picasso qui rit de partout.
Oui. Et moi ça me fait penser curieusement plus à une peinture qu'à un livre. J'ai l'impression d'être dans un tableau de Douanier Rousseau.
De Douanier Rousseau,
la forêt verte, toutes ces formes verbales. Cette espèce de profusion de mots, comme ça.
Ouais. C'est joli, c'est généreux, ça, le côté généreux du Douanier Rousseau, d'ailleurs.
C'est généreux, sauvagement, meurtrissant, on a l'impression dans la forêt.
Oui, Patrice Delbourg.
Oui, les références picturales sont présentes. Moi, j'ai plutôt Archimboldo en tête.
Avec
la cuisse à la place de la tête.
C'est le potager, c'est pas la forêt.
Le charnel et le végétal, quand même, qui sont là. La cervelle qui se transforme en hibiscus, le cœur en vieille fleur d'agave.
Ouais.
Mais il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot homogène. Quand il dit « mon corps n'était pas tout à fait homogène
».
Donc là, c'est un terme un peu médical. Donc il faut essayer de situer ça dans l'histoire de la médecine, ce texte.
Allez-y, parce que vous êtes notre spécialiste.
Bon, alors est-ce que c'est du côté de Galien, est-ce que c'est du côté d'Ambroise Paré ou de la Hennec ?
Je sais pas.
Déjà, voilà. Ça permet de voir un petit peu où est ce personnage. C'est pas sûr que ça soit un être humain, d'ailleurs. C'est peut-être un mammifère, c'est peut-être un golem dans la forêt d'Émeraude, pour reprendre le titre de ce beau film de...
Borman.
Merci, de John Borman.
On progresse petit à petit.
On est pas sûr de
en fait, que, sauf qu'un corps humain ou animal, c'est au début que c'est homogène. Donc, il y a quelques cellules qui se divisent et ensuite, ça se spécialise. Donc là, on est en contraction. Mais peu importe, puisque ce n'est pas des choses littéraires, ça, c'est des choses de médecine.
Alors, abordons les littératures.
C'est totalement mystérieux. Ça, c'est beaucoup plus difficile.
Abordons la littérature. Oui. Il y a des choses intéressantes dans ce texte. Ça a été signalé par Eva, la présence du rire. Il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois le verbe rire en 12 lignes. Il y a une phrase qui est très longue, qui est la deuxième phrase.
Allez-y.
À demi endormi, je m'imaginais même que mon corps n'était pas tout à fait homogène et que certaines parties n'en étaient pas encore mûres, ma tête riant et se gaussant de ma cuisse raillant ma tête, mon doigt plaisantant mon cœur et mon cœur ma cervelle, tandis que mon œil riait au nez de mon nez et que mon nez bafouait mon œil avec d'affolants éclats de rire, d'un fou rire éclatant. Membres et parties de mon corps se violentaient sauvagement dans une atmosphère de persiflage universel, mordant et meurtrissant. Donc une phrase suffocante là.
Alors elle est écrite directement en français.
On a la cuisse dans la bouche, on a les doigts dans l'œil, on est plus que lové, on est écrabouillé par quelque chose.
Dans la lecture rapide, on dirait que c'était écrit directement en français. Jusqu'à persiflage, il n'y a pas une seule faute de rythme. Après, ça devient un petit peu plus lourd.
Parce que Lucas est un très bon lecteur.
J'ai mal lu le texte, mais enfin, c'est au bout de 6 lignes qu'il y a une faute de rythme. Hein.
Oui, c'est ça.
Quand même, c'est,
et alors, Lucas, pour vous
C'est une écriture en français très soutenue. Ouais. Et puis j'ajoute qu'il y a un imparfait du subjonctif bienvenu, un peu plus loin, là. Quoique un petit rire impossible à contenir 20 toutefois de temps en temps.
Mais c'est directement du français pour vous, Jérôme Pierron.
Ah oui, c'est directement du français. Oui.
Personne ne tient pour la traduction là.
Oui, c'est une prose bien scandée, avec des mots qui suffoquent, qui basculent. Il y a un tempo impeccable, c'est une prose de poète.
Ah, on progresse là.
C'est une prose de poète du XXe siècle. D'un poète, j'en ai un en tête, je ne l'avance pas tout de suite, mais disons le secret un peu des grands feuillages.
Le secret des grands feuillages.
Le secret des grands feuillages.
Effectivement, vous avancez masqué.
Oui, dans la bibliothèque verte. Oui.
Ah non, il n'est pas dans la bibliothèque verte.
D'accord avec lui, Eval Massy, l'écriture de poète.
Peut-être, ou de dramaturge aussi, parce que à part donc cette première phrase qui est presque cartésienne, avec la forêt ou pas, il faut pas s'égarer de Descartes, en tout cas, dont on peut sortir en continuant le chemin, ça peut être dit sur une scène aussi.
À voix haute, oui.
À voix haute.
Alors, est-ce que ça pourrait être Lucas Fournier, un monologue fait pour un acteur?
Donc, d'un auteur de théâtre. Puisque c'est écrit à la première personne, ça peut se jouer où l'on veut. Mais ça peut être de qui on veut, là, puisque.
Oui, mais ce n'est
ni daté ni localisé. Il y a juste un élément de datation qu'on n'a pas signalé, qu'on ne peut pas entendre à l'oreille, c'est la parenthèse. Je commençais à me pencher sur ma vie, ma frayeur, loin de se dissiper, s'accrut, quoiqu'un petit rire impossible à contenir vint toutefois de temps à autre l'interrompre, parenthèse, ou peut-être la stimuler. Fermez la parenthèse.
Et ça vous mène à quoi?
C'est quelque chose qui est assez moderne, étonnant, un clin d'œil au lecteur, une petite note en bas de page, quelque chose qui n'est pas...
On met le lecteur dans sa poche.
C'est un petit clignotant particulier.
Bon,
tout le monde ne met pas des parenthèses au milieu de son texte, comme ça.
Les tirer, souvent.
Oui. Non, Victor Hugo ne mettait pas de parenthèses.
Ah oui,
je suis désolé.
Il y a d'autres auteurs que Hugo, Lucas.
Chateaubriand, alors.
Pardon. En tout cas, si c'est Hugo, c'est l'homme qui rit, c'est sûr.
Ah oui.
Alors, Jacques Jouet, on a entendu des bouts ou une phrase entière de ce texte, mais j'aimerais bien qu'on le réécoute en entier.
Infortunée mémoire qui nous oblige à savoir quel chemin nous avons suivi pour devenir ce que nous sommes. À demi endormi, je m'imaginais même que mon corps n'était pas tout à fait homogène et que certaines parties n'en étaient pas encore mûres. Ma tête riant et se gaussant de ma cuisse raillant ma tête, mon doigt plaisantant mon cœur et mon cœur ma cervelle, tandis que mon œil riait au nez de mon nez, et que mon nez bafouait mon œil avec d'affolants éclats de rire, d'un fou rire éclatant, membres et parties de mon corps se violentaient sauvagement dans une atmosphère de persiflage universel mordant et meurtrissant. Mais quand je recouvrais complètement mes esprits et que je commençais à me pencher sur ma vie, ma frayeur, loin de se dissiper, s'accrut. quoiqu'un petit rire impossible à contenir vint toutefois de temps à autre l'interrompre, ou peut-être la stimuler. À mi-chemin de ma vie, je me trouvais dans une forêt obscure, et le pire est que c'était une forêt verte.
Il a des drôles de lectures, Jacques Jouet, quand même. Mmh. Jérôme Clément, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dater l'écriture du texte?
Oui, c'est pas un texte ancien. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce soit un texte du 17e ou du 18e. C'est une écriture plus contemporaine. Le vocabulaire ne me paraît pas très très ancien. Il me paraît 19e, 20e, je dirais. Oui. Disons entre 1850 et maintenant.
Ça fait quand même une grande fourchette.
Ça fait là, oui, ça écarte quand même les 17e siècle précédent. Ouais,
vous êtes d'accord, Lucas?
Entre 1850 et maintenant, oui, ça me semble une très bonne analyse.
Est-ce que quelqu'un peut resserrer la fourchette?
C'est déjà ça,
oui. Patrice Delbourg, mais avec un élément du vocabulaire utilisé ou des temps.
Oui, c'est la forêt verte, donc sans doute la grande forêt amazonienne, mais qui est vécue un peu comme un fantasme, parce que là, c'est quand même un voyage fantasmé, c'est un paradis artificiel, c'est un poète qui, sans doute, dans certains transports, se projette dans des forêts. Donc là, on est première partie du XXe siècle, 1930, 1935, et je pense qu'il y a un rapport direct avec le rêve de l'Amazonie.
Bon.
Si je veux être plus précis que cette large fourchette, je dirais que c'est un texte de la moitié du XXe siècle.
La première.
À cheval. Je dirais pourquoi tout à l'heure.
Allez, 1956.
Voilà, par exemple. C'est ça. Par exemple.
On peut commencer à déboiser en 56.
Par exemple, oui, par exemple. Mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Patrice sur l'Amazonie et sur... Ouais. C'est le côté de ce que j'évoquais tout à l'heure, du douanier Rousseau. Quoi. Il y a une espèce de profusion de mots, de verbes,
consécutif à l'absorption de certaines substances. Ah. Comme il est suggéré par notre camarade.
Et Patrice Delbourg a l'air d'approuver cette remarque.
Oui, bien sûr.
Oui,
C'est un voyage qui est consécutif à la prise de psychotropes. Et donc, c'est quelqu'un qui se projette dans des forêts, voilà, dans des feuillages.
D'ailleurs, il y a dans le texte des vertes et des pas mûres. Il y a la forêt verte et certaines parties n'étaient encore pas mûres. Voilà, c'est bien ça, oui.
Et Valmassi, ça se trouve dans quoi? Alors, est-ce que c'est une autobiographie ou est-ce que c'est un bon petit roman ou gros roman?
Je ne crois pas du tout que ce soit dans un roman. Je pense que c'est un recul, soit même de journal, soit de court récit.
Oui, Lucas?
Ben, c'est un texte quand même où l'auteur se met beaucoup en scène, hein, et il s'annonce dès le début, infortuné mémoire qui nous oblige à savoir quel chemin nous avons suivi pour devenir ce que nous sommes. Donc
ça pourrait être le début d'un livre, ça.
Oui, ça pourrait être le début d'un livre, un morceau de mémoire.
Mais souvenir.
Cette forêt, elle est effectivement très allégorique parce qu'elle est décrite nulle part. Hein. Je me trouvais dans une forêt, on a l'impression presque d'un conte, d'un rêve. Oui.
Aussi, par exemple, c'est très nietzschéen. À mi-chemin de la vie, quand Zarathustra a eu 40 ans et il descend, cette espèce de « je me prépare et dès que je suis prêt, il m'arrivera quelque chose », ça c'est... très philosophique, cette réflexion sur la vie.
Alors moi, j'aimerais bien qu'on livre des noms. Parce que, je vais d'abord demander à Patrice Delbourg, parce qu'il a un poète sur le bout de la langue. Alors. L'avez perdu?
Non. Pour moi, ça semble être un voyage onirique, comme ça, une espèce de canopée de rêves, écrit sous influence, écrit sous mescaline. Donc je pense que c'est Henri Michaud, dans Équador ou dans La Nuit Remue, ou quelque chose comme ça. Donc des petites laves poétiques très brèves. Voilà, Michaud.
Michaud, c'est une très bonne idée, non, Jérôme Clément?
Moi, j'ai pas la même. Moi, je pense que le voyage, il est réel. Je pense pas qu'il soit fait sous mescaline. Donc je pense pas que ça soit un poète. Moi, ce à quoi j'ai pensé, dans la lignée de la suite de ce que j'ai dit, c'est Lévi-Strauss.
Triste tropique.
On pourrait trouver ça dans à la fois la réflexion philosophique et métaphysique, et puis en même temps la description de la forêt.
Bon. Que des gens très bien pour le moment, hein, Lucas Fournier.
J'étais très embêté. Je le suis encore en relisant. Une atmosphère de persiflage universel mordant et meurtrissant. Moi, j'ai pensé à quelqu'un de plus contemporain, qu'on n'a jamais cité ici ou pas souvent, c'est Charles Juliette.
Charles-Julien.
Qui est un écrivain, poète.
Lyonnais, mais il a peu voyagé, Lyonnais.
Non, mais il a eu une enfance difficile, une vie complexe.
Ouais,
c'est un bon écrivain.
Mais dans quoi il aurait pu écrire ça parce que...
Il a écrit 3 ou 4 romans qui sont sa vie. Et
Son
donc
apprentissage.
Ses souvenirs d'enfance et toutes ses années d'apprentissage. Voilà, et donc ces moments très difficiles par lesquels il est passé.
Et ça se situerait dans les années 50.
Et c'est un écrivain très solide, et un très bon écrivain. Hein.
Ça se situerait quand, alors?
Ah ben c'est un écrivain qui a dû naître au début des années 50. Hein.
Oui.
Ah oui,
donc,
c'est
plus récent.
C'est pas l'époque à laquelle on pensait. Charles Juliette, est-ce qu'on jouerait avec Charles Juliette? En principe, on joue avec des auteurs très connus.
Non, mais il est très connu.
Il est très connu. Oui. Bon. Écoutez, on est deux à ne pas le connaître, Eva, mais dès demain, lundi, j'irai à la bibliothèque.
Ah, mais oui, mais c'est magnifique.
C'est un bon auteur.
Ah oui, d'accord.
D'accord. Alors, c'est un rugbyman, accessoirement aussi.
Alors, moi, juste pour être cohérente avec ce que j'ai dit au début sur un peu les recherches de synonymes, et parce que c'est un texte un peu classique aussi, je veux dire la langue en est classique, pas le contenu. Et puis à Dante, alors je vais prendre Pirandello.
Ah,
tiens.
Surprenant. Alors, Jacques Jouet a des mouvements de sourcils qui témoignent d'une certaine incrédulité. Alors, moi, je récapitule pour Patrice Delbourg. Ce serait du Henri Michaud, pour Jérôme Clément du Lévi-Strauss, pour Lucas Fournier du Juliette, Charles Juliette, et pour Eva Pirandello. Alors, est-ce que parmi votre liste de 3 figure un de ces 4 noms?
2 figures dans cette
Mais alors, ils sont extrêmement forts.
Je crois que c'est la
première fois que ça arrive. Parce que souvent, il y en a un, mais deux. Ils sont très forts, non?
C'est bien.
Alors, vos noms, Jacques Jouet.
Alors, mes noms sont les suivants. Pirandello, Gombrowicz, Michaud.
Alors, Patrice Delbourg avait dit Michaud, Eva Almassi, Pirandello.
Hérissant.
Et peut-être ont-ils tort tous les deux, d'ailleurs, puisqu'il y a le troisième, Gombrowicz.
Gombrowicz, c'est pas... Ça ressemble, hein, vraiment. Alors là, c'est... Si pour nous jeter ce nom, il est bien choisi si c'est pas l'auteur. Cependant, puisque j'ai choisi Pirandello, je ne vais pas le renier pour faire des petits clins d'œil à Gombrowicz, que je garde comme auteur aimé, mais je ne vote pas pour lui aujourd'hui.
Écoutez, vous êtes cohérente, Eva. Vous avez dit Pirandello au premier tour, vous le gardez.
Je le garde.
Quitte à gagner, peut-être, d'ailleurs. Alors, vous, Patrice Delbourg, vous aviez dit Henri Michaud. Henri Michaud vous est proposé. Est-ce que vous le gardez?
Oui, je le garde. Je ferai une petite parenthèse sur Charles Juliet.
Oui.
Le roman remarquable dont il est l'auteur, c'est L'année de l'éveil.
Oui. Ah bah,
sur ses années d'apprentissage, faut le citer à l'antenne, c'est un livre magnifique.
D'enfant de troupe. D'apprentissage d'enfant de troupe.
L'année de l'éveil.
Dans le Var, dans le Toulon. C'est un livre extraordinaire.
Donc vous gardez votre Henri Michaud.
Ou Michaud, oui. D'hier ou d'aujourd'hui.
Alors Jérôme Clément, vous aviez dit Lévi-Strauss, donc vous avez le choix entre 3 nouveaux, Gombrowicz, Michaud et Pirandello.
Et moi, je viendrai sur Michaud, parce que c'est celui qui est le plus proche de ce que...
De Lévi-Strauss.
Oui, enfin, c'est aussi cette poésie et cette espèce de rêve un peu onirique, de description de la forêt, etc. Ça me paraît tout à fait de pouvoir être du Michaud. Donc
il a écrit des très courts textes, beaucoup.
Oui, beaucoup, donc c'est
beaucoup,
tout à fait
beaucoup.
Ça. Donc.
D'accord, Lucas Fournier, pour vous.
Je ne vais pas laisser Eva toute seule avec Pirandello, et je ne prendrai pas la solution de facilité que de choisir le seul qui n'a pas été désigné par mes camarades.
Oui.
Donc je me rallie à Eva.
Avec un petit argument pour, quand même.
Parce que je trouvais que Pirandello, c'était en effet une bonne idée.
Ouais.
De quelqu'un qui jouait avec sa mémoire, sur son cheminement.
Et puis très souvent, Eva Almassi trouve. Il faut bien dire.
Ça, c'est pas un bon argument.
Alors, Jacques Jouet, nous avons 2 Pirandello pour Lucas Fournier et pour Eva, qui l'avait dit d'entrée de jeu. de Henri Michaud pour Jérôme Clément et Patrice Delbourg, qu'il avait également dit d'entrée de jeu, pas de Gombrowicz. Est-ce qu'il y a deux gagnants ou zéro ?
Zéro gagnant.
Ah. C'est Gombrowicz.
C'est Gombrowicz.
C'est Ferdi Durk.
C'est à la deuxième page de Ferdi Durk. C'est pas le tout début, mais, ouais. mais presque.
Oui.
Et voilà, bah, le personnage se raconte. Hein, oui. Il a une trentaine d'années. Dans la suite du roman, il va reculer puisqu'il va retourner à l'école et à la maternelle et à l'école élémentaire, etc.
Oui.
Et donc voilà, il doute de sa mémoire et il se met dans la position de Dante, effectivement, avec la citation de « Je me retrouvais dans la forêt obscure ». Et cette forêt verte qui est très mystérieuse, parce qu'il n'explique pas pourquoi. Oui.
Ah, on ne saura jamais pourquoi elle est verte et sombre à la fois.
C'est une plaisanterie comme ça, présentée au passage. Vous avez souligné le nombre de rires qu'il y a, effectivement. La question du rire dans Gombrowicz est très très importante, donc ça, c'est tout de suite donné. Enfin. Mais en même temps, Pirandello et Michaud, quand j'ai cherché des noms, je me dis ça pourrait très bien être du Michaud ou du Pirandello. J'imaginais ça dans une pièce, un personnage qui se parle dans Pirandello, qui pourrait très bien dire des choses pareilles. Et puis Michaud, alors sur le traitement du corps, effectivement, c'était assez plausible.
Qu'est-ce qu'on dit à Eva Almassi et à Patrice Delbourg qui ont quand même trouvé les deux qui étaient sur votre liste?
Ça
n'est jamais arrivé. Jamais.
Et Gombrowicz, alors là, je m'en veux parce que hier, j'étais à Vence.
Oui.
Et Vence est la ville où est mort Gombrowicz. J'étais devant la villa Alexandrine, place du Grand Jardin, là où il a corrigé la réédition de Ferdi Durk. C'est fou.
Ah, bah c'est extraordinaire. Eh oui. Mais la prochaine fois qu'il s'agit de trouver ceux qui sont sur la liste, mais ne sont pas les vrais, je vous invite.
Mais c'est une très belle, c'est une très belle traduction, parce qu'elle a aussi fait illusion.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud. À télécharger sur franceculture.fr, c'est le podcast pour nous avoir toujours à portée d'oreille dans votre bibliothèque sonore. Retrouvez tous les renseignements sur notre prochain enregistrement public au studio 105 de la Maison de la Radio le vendredi 16 juin à 20h sur notre page Facebook et à la page des Papous du jour, réservation indispensable sur le site maisondelaradio.fr, Maison de la Radio tout attaché. On se retrouve dimanche prochain, 12h50, pour un numéro spécial « Il était une fois Henri Cueco au Papou dans la tête ». Au revoir, passez un beau dimanche après-midi à l'écoute des programmes de France Culture. Tiens,